Vous écoutez RMC. RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Les GG ce matin sur RMC. Le baccalauréat est-il trop difficile cette année? Les épreuves de maths et de physique-chimie ont été pointées du doigt par les lycéens. Des pétitions ont été lancées. Elles ont recueilli plus de 15 000 signatures. Et pour Jean-Loup Bonamy, le professeur de philo des GG, ces plaintes sont scandaleuses.
Le bac est déjà bradé. Il n'a plus aucune valeur. Il te permet juste d'entrer sur le marché du chômage si tu as juste ton bac. Donc je ne vois pas ce qu'ils réclament ni de quoi ils se plaignent, puisque leur bac, ils vont l'avoir.
Si ça tenait qu'à toi, tu les sacrerais encore plus.
Ah oui, oh que oui, je désanonymiserais les copies pour voir le nom de ceux qui ont signé. Et vraiment, ils devraient ne pas avoir leur bac et être interdits d'examen pendant 10 ans.
Le baccalauréat est-il trop dur? Jacques Legros, ça vous fait sourire. C'est vrai qu'on ne pensait pas un jour poser cette question.
Ah non, ça franchement, alors là, je tombe de ma chaise.
Et... Entre deux guerres, c'était dur, Jacques?
Non mais écoutez, ça veut peut-être dire que voilà, on a haussé le niveau. Donc,
on n'a pas haussé le niveau, on a baissé le niveau. Donc aujourd'hui, le bac, je vais pas dire pour ceux qui le passent en ce moment qu'on le donne, mais enfin... Presque, on est tolérant avec les candidats. Alors s'il faut le donner avec un chèque en plus, là je m'interroge vraiment.
Non mais là, en fait, à mon avis, les lycéens, ils s'attendaient à une épreuve plutôt, comme d'hab, donc facile. Et puis finalement, ils ont eu une mauvaise surprise et donc ils se plaignent.
Moi, à ma génération, il y avait eu la même chose. L'année de mon bac, des pétitions et tout, parce que le sujet de maths avait été trop difficile. En fait, c'est pas que c'est trop difficile par rapport aux années précédentes, etc. C'est que c'est injuste. C'est-à-dire que pendant l'année, on nous a dit, voilà, les trois points essentiels à connaître et sur lesquels vous serez testé le jour du bac. Et puis finalement, c'est le quatrième petit truc qu'on n'a pas fait, que la moitié des élèves ont pas révisé. Parce que le prof a dit, non, mais ça, il y aura pas au bac, etc. Mmh. Et finalement, ça tombe là-dessus.
Ouais, t'as un mauvais prof, ça arrive.
Non, c'était pas tous les profs étaient d'accord à l'époque. Il y avait eu et du coup à chaque fois on se retrouve avec le lendemain l'éducation nationale qui dit oui c'est vrai qu'on a fait on est allé un peu trop spécifiquement sur tel sujet donc on fera une correction plus sympathique et du coup on assure quand même les 95% de réussite. Mais il y a toujours ce sentiment d'injustice d'avoir révisé les trois notions importantes et puis finalement ça tombe sur le petit truc que personne n'a révisé.
Et ben oui et ben la prochaine fois tu réviseras tout voilà. Et ben c'est un apprentissage de la vie en fait Charles voilà
c'est tout simplement. La manière d'apprendre dans ce pays qui ne va pas.
Voilà merci.
Moi j'ai eu un prof de matin intelligent au bac, qu'ils écoutaient. On sait très bien que les maths vous en foutez complètement. Alors je vais vous donner on va travailler comme des malades de façon pavlovienne les quatre sujets qui vont tomber, des quatre en tout cas. Et on savait tout faire. On a tous eu 18 en maths au bac.
Mais si ça tombe sur le cinquième.
C'est
ça qui dénonce là les élèves, c'est de dire on nous a demandé de réviser ça et puis finalement le sujet concernait pas les révisions qu'on nous a demandé.
Et à notre époque on nous demandait de tout réviser, on faisait des impasses et on savait que malheureusement tu fais une impasse c'est la roulette russe, c'est-à-dire que tu peux quand même tomber sur ton impasse, c'est la faute, t'as pas de chance, c'est comme ça. Et donc si tu peux pas tomber sur ton impasse tu révises tout, en fait tout simplement.
Ils sont des milliers à signer cette
pétition. Ils sont 15 000, ils sont 1 million à passer le bac, ça va.
On ne passe pas la physique au bac, je pense que c'est.
En plus, oui. De toute façon, comme Parcoursup est déjà passé, il faut juste qu'ils aient le bac.
Non mais surtout avec le contrôle continu, de mon temps, tu jouais tout sur l'épreuve, la dernière épreuve.
Oui,
les notes de l'année pouvaient influencer les commentaires et la note de l'année et les recommandations du conseil de classe pouvaient influencer un jury si te manquait un ou deux points. Aujourd'hui, la grosse partie du bac, c'est le contrôle continu.
Oui, mais ça reste important.
On va pas pleurer.
Mais vous vous souvenez tous de vos notes dans chaque matière.
Ah oui, bien sûr. Complètement.
Vous voyez bien que ça marque à vie. Je n'ai toujours pas dit. Où, mince, le sujet a été mal fait. Mais visiblement, il y avait une erreur dans l'énoncé et tout.
Non, mais ce qu'on veut dire, c'est que
ça peut être frustrant pour ceux qui ont bien bossé.
Tu loupes ton épreuve à notre époque.
Quand t'as bien bossé.
Tu peux louper ton bac. Ton épreuve là, si t'as bien travaillé toute l'année, t'as pas de problème. Je sais, moi, j'ai encore en travers de la gorge. Ma note d'espagnol au bac.
Voilà.
J'ai eu 12 alors que j'avais 18 de moyenne. Non mais ça même ma prof était écœurée.
Un scandale.
Ah ouais.
Un scandale. Rendez les points.
Ah oui, j'ai toujours pas digéré. C'est ça, oui. J'en fais encore des cauchemars, madame.
Ah bon? Ok, bon.
Et t'aurais signé une pétition à l'époque.
Alors là, voilà. J'avais mis un contrat sur la prof.
Promo 92, la preuve de maths n'a jamais été aussi facile. Je crois que je suis la seule à avoir eu 8 sur 20, qui était ma meilleure note de l'année en maths. Vraiment un blocage sur les maths. Tout le monde a eu 20 sur 20. Et par contre, moi, j'ai eu la chance d'avoir, indépendamment des maths, d'excellents profs qui avaient prévu absolument tous les sujets. Et je vois, en ayant topé des 18 et des 19 dans certaines matières, pas de mention. Et mes gamins, qui ont à peine révisé leur bac, ils te topent des mentions très bien, des mentions bien. On va pas se mentir, le bac aujourd'hui il est donné, aujourd'hui c'est sur Parcoursup que ça se fait, c'est sur l'année aussi, enfin, c'est rare que je dise c'était mieux avant. mais franchement, c'était mieux avant.
Donc on va pas les plaindre, vous qui avez des enfants qui avaient déjà passé le bac, et un petit dernier qui sera bientôt en âge de le passer. Là, par exemple, le petit dernier, il vous dit, admettons, bah, maman, l'épreuve de physique chimie, elle était hyper dure, je vais signer une pétition, vous lui dites
je vais lui dire, tu te remets à bosser. Non, non, mais c'est pas possible. Il le fera pas, il le sait que c'est pas possible. Que c'est pas jouable et bosser, quoi. Mais je l'ai vu, les jumeaux, ils ont à peine bossé, ils se tapent une mention bien. C'est dégueulasse, quoi.
À notre époque, mention bien, c'était très rare.
C'était énorme.
Et mention très bien, t'en avais un dans l'académie, quoi.
Ça n'existait pas,
j'ai raté. Bien. À peu de choses, mais je l'ai raté.
Tu es mention bien?
Mention assez bien.
C'est le drame de ma vie.
Ça, moi, pas de mention.
Tu l'as raté de loin, alors,
Non, je l'ai raté d'assez près, mais c'est toujours un petit. Ça me fait toujours un petit quelque chose.
Parce que
mais j'avais pas beaucoup travaillé non plus. Voilà. Donc, voilà, il faut rendre à César, etc.
Mais j'entends ce que dit Charles, parce que moi, la note de philo, j'avais 18 toute l'année, et là, d'un seul coup, on tombe sur un truc qu'on n'a jamais vu. D'où ça sort? Rousseau, on l'a absolument jamais vu.
Moi, j'avais 5 toute l'année, j'ai eu 10.
Tu fais ce que tu peux,
il y a des miracles.
Mais là, il y a peut-être des gamins qui ont eu 15 toute l'année en physique qui vont avoir 5.
Eh ben oui, mais leur note de la
vie. En effet, ils auront tous leur bac, hein, je suis d'accord, on leur donne tous, mais ils n'auront pas la mention et toute leur vie. Et excusez-moi. Comme Estelle, dans 30 ans, ils diront ah, je suis tombé sur l'année où la physique, on s'est fait
avoir. Moi, je n'ai jamais dit ça. Mais le truc, c'est que, en vrai, les épreuves, elles sont sur un programme. Tout le monde a le même programme, en tout cas dans les écoles sous contrat. Donc, de toutes les manières, ils doivent apprendre leur livre. Déjà, leur livre en entier, leur programme en entier. Donc, encore une fois, c'est parce qu'ils ont fait une impasse où le prof leur a dit que. À un moment.
Je me souviens que les 3 derniers mois, on passait la moitié des cours à dire au prof, mais ça sera au bac, ça ou pas?
Oui, voilà. Mais t'as pas 10 000, t'as pas 10 000 profs qu'on dit, tiens, faut faire l'impasse là-dessus. S'ils avaient bien bossé, ils seraient pas là.
Après, t'as la chance. Moi, j'avais eu au bac blanc, au vrai bac, le même sujet de géo que le bac blanc. Alors qu'on avait retravaillé, etc. Donc là, après, c'était. Après, il y a toujours une.
Vous avez eu combien en histoire géo?
Oh, j'ai eu une bonne, je crois que j'avais eu 15 ou 16 ou comme
vous
ça.
Vous vous en souvenez pas tout à fait, quoi.
Non, mais c'était une très bonne note. Hein.
On se souvient plus des mauvaises notes.
Non, moi je me souviens que les deux, moi c'est simple, mais j'ai eu 2 mauvaises notes, 8 en philo, ça m'a toujours, et 8 en maths, mais ça, 8 en maths, c'était une très bonne note pour moi.
Oui, bah pareil.
Bravo. Le morning RMC, préférez-vous un meilleur salaire ou du temps libre? C'est une première depuis le Covid. La rémunération redevient le principal critère d'attractivité au travail. 6 Français sur 10 préfèrent gagner plus d'argent plutôt que de bénéficier d'un meilleur équilibre de vie, un changement de mentalité que nous explique Patrick Lévy-Weitz, président de la Fondation Travailler Autrement.
C'est sur les contraintes évidemment économiques, l'augmentation des dépenses courantes, alimentation, logement, évidemment énergie dans la crise aujourd'hui, qui fait que depuis 4 ans, on a un renversement absolument complet, très brutal, puisque c'est en 2 ans que ça s'opère en réalité, et qui montre bien que les priorités des Français changent, mais les priorités parce que y a pas le choix, et qu'il faut évidemment subvenir aux besoins de sa famille, et que cette question est redevenue une question centrale de la société française.
Alors, tu préfères un meilleur salaire ou du temps libre, Jacques Legros? C'est vrai qu'à un moment, tout le monde était là à vouloir un meilleur équilibre de vie, mais ça a changé. Hein.
Ah oui, moi je préfère un meilleur salaire.
Hein. Oui. Pour avoir un meilleur équilibre de vie derrière.
Oui, exactement. Et d'ailleurs, à ce propos, est-ce qu'on peut revoir un petit peu...
Vas-y Jacques.
Non, mais meilleur salaire.
Oui, meilleur salaire.
Ouais. Vous comprenez qu'on soit en train de revenir justement sur ce souhait que beaucoup de Français ont eu après le Covid, c'est d'être plus proche de la famille, d'avoir peut-être plus de loisirs, plus de temps libre, Fred Hermel.
On est revenu à la normalité, en fait. Et d'ailleurs, l'un des grands drames des 35 heures, c'est que les heures supplémentaires n'étaient plus payées de la même manière. Et c'était un drame pour beaucoup de gens, des petits employés, des ouvriers.
C'était plus défiscalisé.
C'était la différence. Donc en fait, c'était un vrai plus pour les gens qui gagnent pas beaucoup. Et aujourd'hui, le gros de la société française ne gagne pas beaucoup. On l'a souvent expliqué. Les salaires de la classe moyenne en France sont bas, donc la classe moyenne s'appauvrit. Donc, à quoi ça sert d'avoir des loisirs si tu peux pas en profiter parce que t'as pas l'argent?
Je pense que
plus en plus cher, d'ailleurs.
Voilà. Et moi, de toute façon, moi, j'ai toujours eu ça. D'ailleurs, j'ai souvent pris très peu de vacances parce que je préférais gagner de l'argent à prendre des vacances, quoi.
Je pense qu'il y a moins d'ambition, dans la génération, trentenaire aujourd'hui. Donc, moins d'ambition, moins de besoin de, de salaire, enfin d'argent,
moins d'argent, oui.
Au profit d'une vie plus libre.
Oui, mais ça c'est en train de changer. Ouais. Justement, Emmanuel Dancourt, est-ce que vous pensez que le travail peut redevenir en fait le moteur de la société? C'est vrai qu'on l'avait un petit peu perdu, et là on a l'impression que bah voilà, les gens, mais ça c'est aussi parce que tout le monde s'appauvrit, hein, il y a de la perte de pouvoir d'achat, et donc il faut gagner sa vie tout simplement.
Moi, je fais la même réponse, hein, le salaire, hein, mais bien sûr. Évidemment, pour accéder à la propriété le plus jeune possible, c'est quand même ça, ce qu'il y a de mieux à faire. Pour finir de payer son emprunt quand t'as 45 et 50 ans et non pas 70, pour pouvoir manger, pour pouvoir circuler avec un gasoil et une essence qui a un peu baissé là, mais qui reste quand même très haut. Oui, évidemment qu'on revient à l'argent. Tout revient à l'argent pour toutes les raisons que vous avez dites.
Les GG ce matin sur RMC, faut-il licencier les consommateurs de drogue en entreprise? Tout est parti du Premier ministre qui souhaite tester ceux qui travaillent dans les ministères. Aujourd'hui, l'usage de drogue en entreprise est passible d'une amende de 200 €. Mais pour Sandrine Pégan, l'avocate des GG, il faut taper encore plus fort sur les consommateurs.
Moi, je pense que oui. Et je trouve que ça serait une mesure qui serait même préventive, parce que du coup, tu aurais la peur de perdre ton emploi. Donc la peur de perdre ton salaire, donc la peur de perdre ton toit, la peur de ne pas pouvoir subvenir à tes besoins. Et aujourd'hui, c'est devenu tellement un fléau que pour moi, et encore plus pour les membres du gouvernement où il y a un devoir d'exemplarité, tu dois pouvoir constater que ton salarié ne soit pas en état de...
Est-ce que tu pourrais dépister dans ton cabinet ou pas?
Ah oui, moi ça me poserait aucun problème. Si c'était autorisé, oui, je le ferais.
Jacques Legros, est-ce qu'il faut faire plus de dépistage en entreprise et virer ceux qui seraient
positifs? On en est là. Ouais. C'est grave. Ben oui, parce que s'il n'y a pas d'autres solutions, d'autres moyens, c'est vrai que c'est un nouveau fléau, ça, et qu'on retrouve dans les accidents de la route, qu'on retrouve dans plein de choses. C'est un nouveau fléau. Alors, face à ce fléau, quelles sont les solutions? Moi, personnellement, j'en ai pas. Alors, pourquoi ne pas dépister et systématiquement, je crois que ça va même commencer par les membres du gouvernement.
Ils l'ont fait dans les cabinets ministériels, mais bizarrement, nous n'avons pas les résultats.
Oui, ça, c'est de la com. Mais s'il y a pas d'autres solutions, dépistons.
Bien sûr.
Oui, mais ça veut dire que tu vas encore plus loin, finalement, que la police dans la vie hors entreprise. Oui. Si tu prends de la drogue chez toi et que c'est illégal, bien sûr, mais que la police ne vient pas, il n'y a pas de problème. Tandis que là, en entreprise, en fait, c'est ton employeur qui donc ferait la police et irait encore plus loin.
Et alors, ça s'appelle le droit du travail, c'est pas grave. C'est un autre droit qui est le droit du travail. Moi, je suis à fond pour. Je n'ai aucune tolérance pour ce sujet-là, pour les drogues. Et surtout, c'est très connu chez les chirurgiens. Moi, je ne veux pas me faire opérer par un chirurgien ou une chirurgienne qui a consommé. Or, on sait très bien que c'est une profession où ça consomme énormément chez les internes qui le disent. Ils s'ennuient, donc il y a de la consommation, etc.
Les internes s'ennuie pas, Emmanuel Dancourt. Non, mais les internes, ils s'ennuient pas. C'est pas possible.
Il y en a qui ont dit qu'ils travaillent.
Ils font 40 heures de garde d'affilée. Je peux te dire qu'ils
ne s'ennuient pas. Ils disent que des fois, ils s'ennuient et que c'est un moment de consommation. Ça a été dit.
Que ce soit parce que justement.
Pour tenir le coup, mais il y a différents types d'internes et de vie d'interne. Mais cela dit, moi, je veux pas être opérée par quelqu'un qui a pris de la drogue.
Donc, les chirurgiens prennent pas de la drogue.
Non, mais c'est quand même une consommation qui est très répandue. C'est connu, c'est documenté. Donc oui, et que ce soit en entreprise, les entreprises ont parfaitement le droit.
Le problème, c'est que c'est banalisé. Problème. C'est qu'on a banalisé cette consommation-là, comme à une époque, on avait totalement banalisé le fait de fumer. Hein. Et aujourd'hui, ça a évolué, ça a changé.
Oui, c'est vrai.
Et la drogue, il faut qu'on...
Oui, mais tu peux fumer, ça n'engendre pas d'effet néfaste. Ouais. C'est-à-dire que tu peux fumer avant de conduire, fumer de la cigarette, je te parle. Il n'y aura pas d'effet. Tu peux fumer une cigarette avant d'opérer. Ça ne gênera pas ton geste.
Il n'y a pas une façon douce d'être contre. T'es contre ou t'es pour? Ouais. Moi, je suis contre. Et contre, c'est 100%, pas 99%.
Alors, quelqu'un qui a fumé un joint un dimanche. Alors, sur le lieu de travail, il y a celui qui vient qui consomme de la drogue sur le travail. Ça, c'est logique. Mais quelqu'un. C'est logique d'être viré. C'est normal. Mais quelqu'un qui a fumé un joint un dimanche. Bon, ok. Et il est contrôlé lundi. Bon, il est positif. Mais quelqu'un qui prend des murches tous les week-ends. Dans ces cas-là, et qui est dans un état second tout le week-end. Tu vois, et là, c'est autorisé, ça.
Mais
est-ce qu'il va être viré le lundi, alors que quand t'as picolé tout le week-end, est-ce que le lundi, t'es en forme pour faire ton travail?
Est-ce que vous êtes toujours arrivé en forme au travail? Un lundi, Jacques, ou un dimanche, franchement?
Regardez-moi le vendredi.
Non, mais là, aujourd'hui, d'accord.
Ah oui, le vendredi, parce que tu t'es remis toute la semaine.
Est-ce qu'il n'y a pas un jour où vous êtes arrivé le matin au bureau où, franchement, bon.
T'avais fait la bombe.
Vous êtes arrivé et vous n'étiez pas dans votre meilleur état?
Non. Je l'affirme.
C'est
non.
Vrai bah, bravo, Jacques. Bah, vous êtes parfait.
Je suis pas un héros. Mais de toute façon, je ne comprends même pas qu'on fume du tabac. Alors, de autre chose et oui, la drogue. Mais c'est en moi, ça. J'ai peur de toute perte de contrôle.
D'accord.
Alors, je suis dans le surcontrôle. Ah, et c'est un gros défaut. C'est un gros défaut, hein. Mais j'ai jamais, mon fils me dit, papa, tu as déjà été ivre? Jamais. D'accord. Jamais.
Non, mais
parce
très bien, bravo.
Je ne pourrais pas supporter l'ivresse, et donc je sais m'arrêter à temps.
Mais de pas te souvenir.
Et,
oh là là.
Et tout horreur. Simplement pour garder le contrôle de moi-même.
Oui, pareil. Mais ça, c'est pas la même chose, comment dire, les effets psychotropes de la drogue. Fumer un joint le samedi soir, ça n'a aucun effet sur votre travail du lundi matin. En tout cas, le lundi matin, vous n'êtes pas défoncé. En revanche, si on vous fait un test, on trouvera les traces.
Mais voilà, c'est ça.
Ce serait
oui, j'ai bien compris.
Et du coup, tout l'enjeu, c'est est-ce que, je sais pas moi, la caissière, l'employé de bureau qui a fumé un joint le samedi soir, qui arrive au bureau le lundi matin.
On rappelle que c'est illégal, hein, de fumer.
C'est illégal, évidemment, il faut pas le faire. Mais est-ce que c'est à son employeur d'aller le traquer le lundi matin?
C'est la question.
C'est tout l'enjeu.
Si ça n'a aucune incidence sur son travail, c'est comme tu prends une cuite le samedi soir, c'est pas bien.
Mais on parle pas des métiers dangereux, évidemment, dans le transport, etc.
Le chauffeur routier qu'on a eu l'autre il y a deux jours,
évidemment,
voilà, un collègue a été contrôlé, il a été viré, voilà, mais c'est normal.
C'est normal. Si tu transportes des gamins ou même, enfin des.
Mais moi, ce qui me gêne, c'est quand l'État demande aux entreprises de se substituer à son rôle, quoi. Voilà. Et là, c'est quand même une défaite de l'État. Et vous avez vu ce qui se passe là, on a quand même le sentiment que dans ce drame qui est le narcotrafic et la France est en train, dans certaines parties, de devenir un narco-État, on a l'impression que l'État c'est qu'il a perdu la partie et que maintenant il refile le bébé aux entreprises.
Pas faux.
Et ça c'est pas très sain dans une démocratie.
Pas faux.
On termine en musique le zapping le morning RMC avec le nouveau titre de la chanteuse belge Adèle. Ça s'appelle Dis-le. Écoutez les précisions de Victor Porcher ce matin sur ce titre très attendu.
C'est une chanson, oui, mais c'est surtout un appel à s'affirmer, à libérer sa parole. Ça nous rappelle aussi Balance ton poids à l'époque avec Angèle. Une chanson aux sonorités électro, c'est sa nouvelle direction.
Oui, alors c'était pas Adèle, mais Angèle.
C'est l'autre.
Tellement calée en musique.
Angèle, c'est plus proche qu'Adèle.
Angèle, c'est la belge.
Alors, vous allez l'acheter cet album d'Angèle? Bah, Jacques Legros.
Bah, j'ai le droit, non?
Bah oui, mais vous écoutez quoi comme musique?
Oh, plein de musique. Moi, ça va du classique au jazz en passant par la variété. Plein de choses.
Ah, la variété, mais vous écoutez quoi en variété?
Ah, j'adore. Borchuman. Et pourquoi pas?
Mais c'est bien Borchuman.
Hein oui. Non, c'était comment? Je sais plus.
Oui.
Mais moi, je suis un fan absolu de Véronique Sanson, comme je l'étais de Michel Berger, comme je l'étais de. Enfin bon, de plein de chanteurs français et étrangers. Hein. Elton John, pour moi, c'est Dieu sur la Terre. Enfin bon, et ainsi de suite. Je vais pas tous les citer.
Et en nouveauté? Enfin, je veux dire.
En nouveauté.
Et en moins de 50 ans. En moins de 60 ans, il y a quelque chose.
Mais qu'elle est désagréable. Mais qu'elle est désagréable.
Fred Hermel.
Non, c'est de la très bonne chanson, Angèle.
Oui.
Ouais, franchement, c'est très bien produit, la musique est bien, elle chante très très bien. Les paroles sont parfois un peu redondantes, elle est toujours un peu sur le même thème, mais c'est une très bonne chanteuse. Je sais pas, il y a quand même.
Ah, vous êtes sensible à la variété aujourd'hui.
Ah oui, non, mais.
Très bien.
Ouais, non, mais c'est. Et puis, du coup, de la musique, c'est du sérieux. Il y a suffisamment de daubes aujourd'hui pour pouvoir reconnaître qu'Angèle, c'est de la très très bonne musique. Ouais, petit problème avec le fisc français, tiens, sur la résidence, oui.
Ah, oui,
oui, sur la résidence entre la Belgique. Mais bon, le problème, c'est que le fisc français dit, j'ai l'impression que vous vivez beaucoup à Paris, madame.
C'est bizarre, quand même.
Ah, bah oui, voilà. Donc, il faut toujours se méfier quand on donne des leçons dans ses chansons.
Toujours se méfier du fisc.
Non, pas du fisc. Il faut toujours se méfier quand on donne des leçons sur le monde, sur la vie dans les chansons, d'être irréprochable dans sa vie.
Moi j'adore Angèle, c'est une chanteuse Me Too. Quand elle a sorti Balance ton quoi, ça a été complètement repris par les une chanteuse Me Too. Aujourd'hui il y a beaucoup de chanteuses qui font des chansons sur les violences sexistes et sexuelles. Balance ton quoi, c'était ça, c'est devenu un hymne. Et nous à Me Too Media, on a une remise de prix Me Too Media le 6 novembre au Théâtre de la Concorde. On va remettre le prix de la meilleure chanson. On croule sous les super chansons, que ce soit du rap, que ce soit de la variette, on croule sur ces chansons incroyables qui parlent de ces sujets-là. Donc c'est ce que j'appelle les chansons Me Too, et elle, c'est vraiment une égérie. Et merci Angèle.